France Inter. Philippe Bertrand.
Carnet campagne, bonjour. Lorsqu'il arrive dans le département de l'Oise, c'est notre fil rouge cette semaine, en 1989, Rachid Cherfaoui ne pensait pas rester longtemps, enfin quelques années, le temps de créer une association intermédiaire d'insertion. Finalement, ce chef de file de l'insertion des personnes privées d'emploi va poursuivre son action. Aujourd'hui, la maison d'économie solidaire qu'il préside emploie 363 salariés. Il va nous conter son parcours. Nous serons ensuite dans le sud du Maine-et-Loire pour visiter le lieu le plus étrange qui nous ait été donné de fréquenter. Il s'agit de l'association Costumes et Théâtre qui veille sur plus de 12 000 costumes et 500 décors de théâtre.
Carnet de campagne. Le journal des solutions.
Rachid Cherfaoui, bonjour.
Oui, bonjour Philippe.
Rachid, vous présidez la maison d'économie solidaire du Pays de Bray. Quand vous êtes arrivé il y a de nombreuses années en Picardie, c'était un peu le désert.
Alors la Picardie, peut-être pas le désert en Picardie, mais en tout cas le désert dans le Pays de Bray où on s'est installé, effectivement. En 89, quand je suis arrivé sur ce territoire, là, motivé par cette histoire d'insertion, là, je savais pas que 30 ans plus tard, j'y serais encore, ouais, à l'intérieur de cette maison d'économie solidaire, une SIC qu'on a créée en 2004, maintenant, ouais, la première SIC du nord de la France. Ouais.
L'insertion peut être un modèle économique provisoire de formation, mais c'est donc provisoire et c'est fragile. Comment vous avez pu maintenir quand même ces activités?
Alors, au début, d'abord motivé par l'insertion, de 89 à 2000 à peu près, c'est-à-dire que on cherchait partout dans l'économie locale où est-ce qu'on pouvait mettre une personne ou deux en adaptant à la fois l'entreprise et les profils. Ça a été le fait de l'insertion. Et après, on s'est rendu compte que finalement, il fallait peut-être changer le paradigme et il fallait créer nous-mêmes de l'activité économique qui, dès le départ, avait dans leur ADN cette dimension d'insertion. Et donc, c'est à partir de 2004, là, quand on a créé cette SIC-là, où on a finalement inversé le paradigme et l'insertion était plutôt un produit de sortie des nouvelles économies que l'on faisait ici, la recyclerie, les métiers de service à la personne, la construction, etc.
Ouais, je pense souvent à l'exemple qui est donné depuis quelques années par les opérations territoire zéro chômeur de longue durée. Une époque, on disait, de toute façon, il n'y a pas d'emploi. Mais on a remarqué qu'il n'y avait pas d'emploi, mais il y avait du travail. Finalement, pour l'insertion, c'est exactement la même chose.
Voilà, en tout cas, c'est peut-être des acteurs un peu médians comme nous qui devront nous dire, au bout d'un moment, peut-être qu'il faut nous-mêmes qu'on devienne des développeurs économiques territoriaux. Dans les entreprises qu'on crée ou qu'on accompagne à créer, dès le départ, cette question de l'inclusion soit l'un des paramètres, comme d'autres, y compris de la performance économique. Voilà. Et je crois que c'est ça qui s'est passé dans la tête d'un certain nombre d'entre nous. Et effectivement, maintenant, dès qu'on crée une entreprise, on en travaille sur la création de 4 entreprises en ce moment, dans chacune d'elles, il y a une place pour l'inclusion, pour l'insertion.
Mais Rachid, pour les structures d'insertion par l'activité économique comme les vôtres au sein de cette maison d'économie solidaire du Pays de Bray, donc je répète, sont limitées parce qu'elles ne peuvent pas aller dans le secteur marchand.
Alors, les entreprises d'insertion le peuvent. Et même si, tant pis, elles n'ont pas le caractère d'entreprise d'insertion, il est prévu dans notre organisation qu'il y aura toujours une priorité à l'embauche des gens qui sont issus de ce milieu-là. Et ça a été tout à fait le cas, par exemple, sur les métiers de service à la personne.
Oui.
Où on a du coup accompagné des centaines de personnes, on peut le dire, justement à se former, des femmes qui étaient loin de toutes ces questions-là, et qui sont aujourd'hui des salariés en CDI dans cette entreprise qui s'appelle PBS, par exemple.
En 2014, vous êtes labellisé pôle territorial de coopération économique, PTCE. Ça change les choses ?
Alors ça met un mot sur quelque chose qu'on pratiquait de manière confuse. C'est-à-dire qu'effectivement, je vous ai dit en 2004, on se crée en SCIC. Donc à ce moment-là, on fait venir à nous un actionnariat assez large, les entreprises du coin, les associations du coin, les collectivités publiques. Et on commence à développer notre projet qu'on a appelé Demain le Pays de Bray, voilà, qui était vraiment le projet de la Maison d'économie solidaire et de la SIC. Puis on s'est rendu compte qu'en fait, on changeait la réalité de notre territoire, la réalité de l'entrepreneuriat. Et on savait pas mettre de mots là-dessus. Et quand, avec Christophe Chevalier, d'Archer, un certain nombre ailleurs, on s'est rendu compte qu'on faisait la même chose, on a cherché à mettre un mot sur et on a dit ce PTCE. Mais dès qu'on a eu un mot, finalement, on s'est rendu compte qu'on n'était pas seul dans notre coin à faire notre truc, mais vraiment qu'on était une communauté qui avions finalement fait le même chemin sans le savoir, voilà. Donc ça a au moins permis de mettre un mot sur un concept et de dire, eh ben écoutez, ce qu'on vit ici, c'est de toute façon quelque chose qui est tendanciel probablement en France, sinon ça n'existerait pas comme ça. Et vous voyez là que sur le dernier appel à manifestation d'intérêt sur les PTCE, il y a 107 territoires qui ont répondu. Donc là, on était juste un peu en avance sur un truc, quoi. Simplement, juste, je vais jeter un mot comme ça, c'est une holding LRC, c'est-à-dire que d'habitude, la holding est propriétaire de ses filles, là, c'est les filles qui sont propriétaires de la holding.
Oui, c'est bien. D'accord. Ça fait combien de salariés aujourd'hui ?
400.
Rachid, il y a d'autres maisons d'économie solidaire comme la vôtre en France ?
Alors, en tant que tel, c'est pas un produit déposé. Hein, non. Alors, en tant que tel, est aussi intégré dans la coopération avec des acteurs économiques comme la Chambre de commerce qui est venue nous rejoindre, par exemple, là, sur une pépinière qu'on a faite, etc. Non, je ne crois pas aussi intégré à une coopérative. Mais par contre, cette démarche-là, je vous dis, à travers les PTCE, on se rend compte que il y en a quand même beaucoup, beaucoup. On va dire d'un lieu un peu emblématique, d'une équipe un peu tiers de confiance, et après en mode projet, c'est-à-dire que l'objectif pour nous c'est de sortir des nouveaux prototypes, des choses réelles, concrètes, économiques, quoi. Et ben là on se rend compte qu'il y en a quand même beaucoup.
Vous avez trouvé les liens avec cette maison d'économie solidaire du Pays de Bray, exemplaire à nos pages d'émission. Merci beaucoup Rachid.
Merci Philippe, à bientôt, au revoir.
France Inter, carnet de campagne.
L'association Yes We Camp fait encore parler d'elle avec de bonnes nouvelles. Après sa reconnaissance nationale pour son investissement dans le programme des grands voisins à Paris, l'association intervient sur plusieurs sites à la fois. L'éthique de départ reste la même, à savoir il est possible sur des espaces urbains vacants de monter des expériences de vie, de production, de création avec les habitants. Les interventions sont certes transitoires, mais confortent l'idée que les friches urbaines peuvent être animées collectivement et préfigurer la ville de demain. Depuis 2016, l'association est missionnée pour donner vie à une friche de 9000 m² dans le quartier des Grous à Nanterre. Les travaux d'aménagement d'un jardin alternatif au pied de la Défense ont commencé. Ils laissent place à d'autres expérimentations qui relèvent de l'insertion sociale, la production locale, d'activités pédagogiques ou encore de création artistique ou artisanale. Le collectif Vive les Grous invite donc les personnes, les associations ou les entreprises qui seraient intéressées pour déployer leurs activités dans le quartier à prendre contact avec lui. Vous allez sur le site vivelesgrous.fr et puis il y a aussi une adresse email si vous voulez entrer en contact avec les organisateurs et avec l'association Yes We Camp. Peter Nautbert, bonjour.
Bonjour.
Merci de parler de l'association pour laquelle vous travaillez, Costume et Théâtre, Costume au pluriel, à Saint-Paul-du-Bois, on est dans le sud de Maine-et-Loire. C'est une association phénoménale qui possède, tenez-vous bien chers amis, un fonds de 12 500 costumes de scène, de théâtre, 2000 pièces de décor, soit aussi 500 décors complets que vous proposez à la location.
Alors ces décors sont proposés à la location uniquement à but socio-éducatif ou culturel, donc jamais dans la sphère privée, mais pour toutes les structures, toutes les personnes qui auraient un projet artistique, culturel, éducatif, qu'il soit commémoratif, qu'il soit spectacle de théâtre, qu'il soit son et lumière, photographique, on peut tout imaginer dans ce contexte de location-là.
Ce sont des objets patrimoniaux hein, quand même, parce que les décors ont été conçus entre les deux guerres.
Absolument, ce sont des décors qui sont particulièrement anciens puisqu'ils nous viennent d'une collection angevine de Monsieur Faucheux. Mais Monsieur Faucheux détenait déjà certains de ces éléments de décor, de théâtres célèbres parisiens comme le Théâtre du Châtelet ou d'autres opéras qui dégraissaient à l'époque leur stock. Et donc lui constituait sa collection comme ça. Donc la plupart de nos décors sont centenaires.
Ouais. Et 12 500 costumes, donc ils proviennent de cette collection de ce célèbre Faucheux.
Alors c'est la première pierre à l'édifice que ces 12 500 costumes. Or depuis la collection a énormément bougé puisque les gabarits, les silhouettes des personnes à habiller ont considérablement évolué à travers les âges. Donc il a fallu en fait qu'on renouvelle un petit peu ce stock. Donc on a toujours ce fond un petit peu de cette base historique patrimoniale de chez Monsieur Faucheux. Mais au jour d'aujourd'hui, le plus gros de la location vient par les costumes qui ont été produits ici dans nos ateliers.
Et vous continuez à en faire.
Et on continue à en faire, encore et toujours. Là, actuellement, les costumières sont à pied d'œuvre pour une comédie musicale, puisqu'il nous faut habiller le tsar et la tsarine descendant de la famille des Romanov, quasiment intégralement en blanc.
Ouais.
Donc on n'avait pas forcément ces costumes-là, et pas, ou alors pas dans les silhouettes attendues par rapport aux comédiens qui sont habillés. Donc on confectionne tous les jours et selon les demandes, au gré des besoins de la structure qui fait appel à nos services.
Mais Peter, vous avez suffisamment de place chez vous à Saint-Paul-du-Bois pour abriter ces prestigieux costumes et décors?
Alors vous dire la surface au sol que ça peut représenter, ça serait très compliqué. Ça représente un certain volume. Si on regardait une photo satellite du centre-bourg, on verrait que les bâtiments costumes et théâtres prennent un bon tiers du centre-bourg de la commune de Saint-Paul-du-Bois.
Vous avez des milliers et des milliers de boutons, par exemple, de costumes.
Des milliers de boutons, des centaines de cintres, des bobines de fil sur des métrages complètement incalculables, du galon, toutes sortes de décorations, d'aigrettes, de choses qui viennent s'apposer sur l'ensemble des costumes pour les décorer, c'est-à-dire les embellir. On a aussi je ne sais combien de dentelles, de coupons qui viendraient garnir certaines robes. Donc non seulement on a ces costumes, mais c'est vrai qu'on détient aussi ce trésor de petits matériels qui viennent, j'allais dire, s'assembler pour donner vie à un costume plus global.
Alors, l'histoire de ce lieu est due à un abbé, l'abbé Moreau, féru de théâtre.
Féru de théâtre, passionné de culture, l'abbé arrive en 1954 dans la commune, s'appuie sur une activité théâtrale déjà en place dans l'école des garçons, et va faire construire le théâtre, le bâtiment théâtre, uniquement à bras de bénévoles, et de là, cette aventure théâtre commence, et quelques années plus tard, ensuite, l'abbé aura l'opportunité de racheter un fonds de costume à la maison Faucheux à Angers au moment de la fermeture de ses portes. Il se porte acquéreur avec l'association, bien entendu, et de là commence l'activité de location, donc dans les années 1966-67, date de l'arrivée des premiers costumes.
Ouais. On rêve que d'une chose, c'est de pouvoir ouvrir ses portes au public, mais là, c'est pas possible.
C'est une collection qui se visite sur rendez-vous, c'est-à-dire que sur constitution d'un effectif de 10, 15, 20, 30, et on est même des fois monté jusqu'à 80 ou 90 personnes sur rendez-vous. C'est un espace patrimonial qui se visite parce que le souhait de l'association est aussi de transmettre.
Alors, il y a un site, c'est Costumes au pluriel, Trait d'Union et Trait d'Union Théâtre, Trait d'Union Saint-Paul-du-Bois, c'est un peu long, .fr, mais...
Oui, c'est un nom de domaine relativement long, ouais, mais qu'on a souhaité long parce qu'il devait refléter la totalité de notre activité et permettre aux gens, en plus, de localiser Saint-Paul-du-Bois, parce que c'est une toute petite commune de 600 habitants, mais qui a entre ses murs et qui abrite une association riche d'un patrimoine extraordinaire.
Ouais.
D'ailleurs, selon les mots du ministère de la Culture, il y a quelques années, la collection en l'état est la seule sur le territoire français en milieu rural.
Ouais.
Et on voyage et on travaille complètement hors du temps lorsqu'on est dans ces bâtiments-là,
ouais,
et au gré de ce qui anime aussi nos visiteurs, nos clients, donc la passion, des passions communes pour les pratiques artistiques, pour les pratiques culturelles. Donc c'est un vrai bonheur.
Bien, merci Peter pour ces prémices de voyage. On va venir vers vous bientôt.
Oui, avec
merci.
Grand plaisir.
Demain, dans l'Oise, on ira voir une chose étrange, le Labo Pera Oise.